France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis Hector Berlioz, Charles Gounod, Georges Bizet d'une part et Désiré Beaulieu, Antonin Taudou et Raoul Lapara d'autre part, je ne crois pas trop m'avancer en supposant que les trois premiers vous sont plus familiers que les trois derniers. Il va sans dire que je me rallie à la majorité. Ces six compositeurs appartiennent pourtant à la même liste très sélective des élites de la musique française du 19e siècle, celle des premiers prix de Rome, a priori propulsés vers un destin glorieux. Comment ces jeunes compositeurs, amenés à passer plusieurs années à la Villa Médicis, à Rome, après avoir obtenu leur prix, apprennent-ils leur séjour? Quelles sont leurs obligations, leurs devoirs, leurs envies, leurs espoirs, leurs désespoirs? Avec le témoignage des intéressés et de nombreux documents d'époque, Alexandre Dradviki, mon invité, nous fait partager leur quotidien, comme si nous étions leurs proches et qu'ils nous envoyaient des cartes postales. Des cartes postales signées « Bon baiser de Rome », le titre de cette imposante étude, sous-titrée « Les compositeurs à la Villa Médicis 1804-1914 », publié conjointement par Actes Sud et le Palazzetto Bruzzani. L'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit, c'était le début de l'ouverture de Rob Roy d'Hector Berlioz, une œuvre composée à Rome, un envoi de 1832. Berlioz a eu le prix de Rome en 1830. Bonjour Alexandre Dradviki.
Bonjour.
Vous êtes musicologue et directeur artistique du Palazzetto Bruzzane et l'auteur donc cet imposant ouvrage sur les compositeurs à la Villa Médicis durant le 19e siècle. Pourquoi ces deux dates brièvement ?
Alors le Prix de Rome naît en 1666 pour beaucoup de domaines artistiques, mais pour la musique en fait c'est 1803 et donc le premier Prix de Rome arrivant récompensé en 1804, voilà la première borne. Et en 1914, à cause de la guerre, on ferme l'Académie de France à Rome pendant plusieurs années et quand ça réouvrira, tout le modèle sera repensé, les concours, le type même d'esthétique défendue. Donc ça faisait sens de s'arrêter pour une première étude en 1914.
Donc le Prix de Rome récompense a priori les meilleurs musiciens donc qui vont passer combien ? 3, 4, 5 années ?
Alors les règlements vont évoluer. Le minimum c'est 3 ans, le maximum c'est 5. Mais sachant que pour les musiciens en particulier, on va les inviter assez vite à quitter la villa parce qu'ils font beaucoup de bruit avec leur piano et puis parce que la musique à Rome n'est pas aussi idiomatique qu'on pourrait l'imaginer. Et on les invite alors soit à aller au moins à Naples ou à Florence. Et même dans les règlements, on leur demande de partir en Allemagne pendant leurs dernières années de pension. Donc ils sont payés comme pensionnaires de la villa, mais en fait ils sont à Bayreuth ou à Munich.
Et alors, que sont-ils censés faire ? Je disais en introduction, il y a des obligations. J'ai évoqué là brièvement l'envoi de 1832 de Berlioz, de cette ouverture de Robreuil. Qu'est-ce que on attend ? Qu'est-ce que l'État français attend de ses pensionnaires ?
L'éternel dilemme du pensionnaire, c'est de se croire un grand artiste libre, alors qu'en fait, depuis Paris, on considère que c'est encore un élève en fin de formation.
C'est ça.
Et à ce titre, on publie un règlement dès 1804, le règlement des envois de Rome, qui détaille année par année ce que l'on doit envoyer. Alors avec parfois des options, on peut envoyer une symphonie ou une messe, on peut envoyer un opéra italien ou une cantate française. Mais donc, chaque année, on doit faire un envoi à date fixe, jugé par l'Institut, par l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut. Et en fonction, bien sûr, de la qualité du rapport de l'Institut, on doit améliorer son style. Donc, on doit progresser selon des dogmes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tous les pensionnaires vont se plaindre. Beaucoup vont réussir à biaiser, à ne pas faire les envois ou pas, en tout cas, les envois prévus. Et puis, certains, dans le secret de leur chambre, vont composer des envois non officiels qui, d'ailleurs, ne seront pas envoyés à l'Académie, mais envoyés à des éditeurs à Paris.
On y reviendra un petit peu plus tard, Alexandra Dvicky. Alors, c'est un livre important, une étude vraiment approfondie. On suit vraiment le quotidien des pensionnaires de la Villa Médicis. Vous commencez d'abord par raconter en fait le voyage, qui est comme une expédition entre Paris et Rome. Au début du 19e, c'est une vraie expédition.
D'autant qu'en fait, le voyage en Italie, c'est quelque chose qui date du 17e et même du 18e siècle en général. Faire ses humanités pour les gens riches, c'était faire le voyage d'Italie.
Bien sûr.
Et donc, le voyage, ça veut dire passer par les villes importantes. Et donc, on engage et on demande aux jeunes prix de Rome de passer par Florence, par Bologne, d'arriver jusqu'à Rome. Alors très vite, certains vont opter pour le voyage en bateau par la Méditerranée, comme Berlioz par exemple, ce qui fait qu'on accoste pas si loin de Rome et on voit pas grand-chose, mais ça va beaucoup plus vite. Et puis le grand drame des directeurs et de l'Académie, des directeurs de la Villa, c'est quand le chemin de fer va apparaître, parce qu'en fait, Gounod le dira, en fait ces jeunes prix de Rome qui auraient dû profiter du voyage et aussi profiter du fait de voyager ensemble pour former un groupe qui se connaissent, d'amis et de collègues, artistes, et bien en fait tout ça va se déliter à travers le voyage en train, où les gens vont faire des allers-retours intempestifs et partir à la dernière minute.
Oui, parce que on apprend par le témoignage donc de ces premiers pensionnaires que les musiciens voyagent également avec des peintres, des sculpteurs et que les disciplines sont peut-être amenées à se côtoyer.
L'idéal de la Villa Médicis, c'est de retrouver le compagnonnage moyenâgeux où en fait les artistes travaillent entre eux, se secondent, se conseillent, s'observent et discutent de manière très ouverte. Ça va être le cas surtout jusqu'en les années 1860, puisque quand on quitte Paris, on quitte souvent Paris à plusieurs, à 5, 6, 7, pour des raisons de sécurité. Aussi, rappelons-le, ce sont des gens dont très peu parlent italien, et donc une fois qu'on a passé la frontière, c'est pas forcément facile de se débrouiller sur les chemins, des chemins chaotiques, et on est encore, je ne veux pas vous dire à dos d'âne, mais on est encore dans des voitures assez chétives pour certaines. Et donc évidemment, le principe, c'est qu'ensuite, quand on arrivera à la villa, et qu'on sera amené à vivre 5 ans ensemble, on se sera connus, et le groupe sera soudé grâce à ce voyage initial.
Et le voyage s'effectue avec un voiturin, c'est ça une
partie ? Alors, cette voiture s'appelle un voiturin jusque dans les années 1840.
C'est ça, oui.
Et ensuite, il y a tous les types de voitures à chevaux qu'on peut imaginer. Alors, c'est vrai que sur les derniers kilomètres, on dort souvent à Ponte Mole, qui est pas loin de Rome. Il y a toute une histoire de bizutage dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, la toute fin du voyage se fait souvent dans une petite carriole, pour le coup vraiment chaotique, tirée par deux ânes ou deux mulets, parce que le mulet dissimulé et très à la mode à Rome. Et on aborde, on accoste, si je peux dire, la Villa Médicis dans des voitures improbables. Et devant la majesté de ce palais, on doit se sentir peu de choses quand on a juste un chapeau de paille et deux mulets devant soi.
Le chœur et l'orchestre de chambre de l'Opéra de Varsovie dirigé par Didier Talpin, c'était la fin de Don Procopio de Georges Bizet, un envoi de 1858, Bizet qui a eu son prix de Rome en 1857. Alexandre Dradvicki, une des consignes données aux jeunes pensionnaires, c'était également de s'imprégner de la musique italienne. Et là, apparemment, Bizet a quand même bien rempli sa tâche. Il y avait la découverte du répertoire italien, mais on apprend quand même, à lire le témoignage de ces pensionnaires, que la musique, la vie musicale à Rome n'était pas d'une grande richesse. Et ce qu'on pouvait entendre dans le grand répertoire, enfin ce qui nous apparaît aujourd'hui comme le grand répertoire italien, n'était pas toujours interprété dans des conditions idéales.
Non, effectivement, un des grands principes, c'était de se plaindre de la qualité d'exécution, de la même répertoire joué. Alors c'est vrai que dans le répertoire italien, finalement, l'opéra bouffa, mais plutôt l'opéra bouffa un peu classique, est regardé comme un modèle, et notamment un modèle de vivacité d'expression, de justesse dramatique. Et dans les critiques, on voit bien le rapprochement se fait sur la qualité théâtrale de l'opéra bouffa. On n'est pas si loin de la qualité théâtrale d'un opéra français. C'est le modèle à prendre. En revanche, c'est vrai que pour tout ce qui est opéra seria, c'est beaucoup plus limité. Peut-être que la vraie découverte italienne que font les pensionnaires, on pourrait pas l'imaginer aujourd'hui, c'est la musique sacrée, mais celle de l'époque de la Renaissance, puisqu'ils vont à la chapelle Sixtine écouter des chœurs, notamment de Castra, exécuter du Palestrina ou du Allegri. Mmh. Et c'est vrai que ça, ils n'ont jamais entendu. Et tous, même Debussy, qui pourtant est assez réticent à tout le principe académique et de la villa, ou Berlioz, eh bien, ces deux-là vont être frappés par l'intelligence de ce répertoire complètement dépouillé. Et pour eux, c'est l'opposé de la musique italienne qui est tout en fioriture. Et là, ils découvrent une musique italienne, alors pas de la même époque, mais qui est dans le dénuement, la simplicité absolue. Ouais.
Mais il semblera que là aussi, au cours du XIXe siècle, la qualité du chœur de ces castrats de la chapelle Sixtine évolue et pas forcément dans le bon sens.
Alors, notamment parce qu'on a de moins en moins de castrats, on en trouve de moins en moins, donc on les garde de plus en plus longtemps, et donc à la fin, on a des castrats plus que vieillissants, ou vieillis même. Et effectivement, dès les années 1860, c'est Rabot, Dubois, etc., qui compare à des cris de chat qui miaule sur les gouttières de Paris. C'est assez drôle. Alors là encore aussi, malheureusement, on doit imaginer que Palestrina ou Allegri passés au prisme de castrats défaillants, ça donne pas une juste idée de ce qu'ils auraient dû ou pu entendre.
Mmh. Et parmi les obligations, en tout cas au début, début, parce qu'on découvre, à lecteur de votre livre, Alexandre Dradviki, que les obligations évoluent. Il y a la collection de chants traditionnels. Là, c'est vraiment tout à fait étonnant pour l'époque.
C'est vrai que le premier règlement...
Un siècle un peu avant les grandes collectes
voilà, de début. Le premier règlement qui va disparaître dès 1820, donc celui de 1804, impose un travail qui est quasiment de la musicographie ou de du folklore musical, puisqu'on doit à la fois écrire une notice sur un compositeur italien, en français, et puis on doit à la fois collecter des chants traditionnels pour pouvoir s'en servir plus tard. C'est un peu le principe de ce que font les peintres et les autres artistes, c'est-à-dire de collecter des croquis ou des esquisses pour s'en servir plus tard dans leurs ateliers parisiens. Et on se dit que ça peut fonctionner en musique parce qu'on a toujours besoin d'un thème italien quand on compose de la musique instrumentale ou surtout de l'opéra.
Sandrine Piou, accompagnée par Jos van Immerzel, c'est l'extase, une des ariettes oubliées de Claude Debussy. Alexandre Dradviki, pour Debussy, c'était vraiment pas l'extase, hein, son séjour à la Villa Médicis. Il dit à un moment, vous le citez, toute cette villa m'écrase et m'anéantit. Il dit qu'il étouffe et qu'il voit tout sous un jour détestable. C'était vraiment, comme Berlioz, c'était vraiment un séjour pas très agréable.
Mais on n'imagine pas, alors c'est peut-être le syndrome de l'enfant gâté, mais on n'imagine pas que... Sans doute la moitié des pensionnaires de la villa étaient déprimés, sinon dépressifs, et en fait ont été dans l'impossibilité de produire quelque chose de valable. Massenet, d'ailleurs, ce sera la même chose, hein, il ne produit quasiment rien à Rome. Et pour avoir connu moi-même les murs de la villa, je dois dire, c'est très étrange de s'imaginer ça, mais je dois dire que ça m'a moi-même bloqué dans la spontanéité de travail que je pouvais fournir quand j'étais juste avant à Paris ou juste après. Et je garde de mon séjour à la villa aussi un côté un peu déçu de ne pas en avoir profité.
L'endroit n'est quand même pas épouvantable.
Mais c'est peut-être qu'en fait, l'endroit n'invite pas à travailler. Oui, et qu'en fait, on y est pour travailler et repartir ou déjà faire 2 ou 3 mois en se disant ben, « je n'ai rien fait », on ne se sent pas tellement à la hauteur des promesses que l'État a placées en vous. Mmh. Alors, je pense que c'est plus vrai pour Berlioz, Debussy que pour moi, mais je dirais que c'est vraiment quelque quelque chose qui, du coup, s'ajoute à cette impression que ces artistes ne sont pas libres et qu'ils ne sont pas compris et qu'ils ne peuvent pas produire des choses modernes et personnelles, s'ajoute à ça cette impossibilité pour la plupart, ou pour une partie d'entre eux en tout cas, de produire.
Mmh. Alors, c'est cet extrait des Ariettes oubliées de Debussy qu'on vient d'entendre, donc, qui lui a eu son prix en 1884, fait partie des choses qu'il a composées à Rome, mais qu'il n'a pas envoyé. Ça ne fait pas partie de ses envois comme Printemps ou La Demoiselle élue.
Alors l'Académie Beaux-Arts va définir ses travaux comme des travaux spéculatifs, c'est-à-dire des travaux qui ne sont pas demandés par l'Académie, qui ne sont pas d'ailleurs envoyés et donc pas jugés par l'Académie, et qui ont pour destination un public et des éditeurs, donc un public à la mode, les salons parisiens, et puis une destination commerciale puisqu'il s'agit de faire de l'argent. Et c'est vrai que très tôt, mais alors surtout dans les années 1870, 80, 90, le directeur passera son temps à lutter contre le travail de spéculation en inspectant les ateliers et les chambres de pensionnaires pour être sûr que les gens travaillent à leur envoi et ne travaillent pas à d'autres choses. Et c'est vrai que les Ariettes oubliées, c'est peut-être avec La Damoiselle élue qui pour le coup est un vrai envoi,
un
envoi qui a déçu tout le monde parce que c'est beaucoup trop moderne pour Gounod ou Ambroise Thomas. Eh bien, les Ariettes oubliées, c'est peut-être la grande production médicienne de Debussy.
Tous ces envois, on les connaît, vous les citez d'ailleurs, il y a une chronologie très précise de tous ces envois durant le 19e siècle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un répertoire qui a intégré le grand répertoire ou qui reste au contraire extrêmement secret ?
Alors 90% reste secret, et même au point que certains sont perdus et d'autres sont inédits. Donc pour les jouer aujourd'hui, il faudrait déjà les publier, ce qui pour les grosses pièces symphoniques demande beaucoup d'énergie et de financement. Mais il y a quelques œuvres, on a entendu l'ouverture Rob Roy, Louise de Charpentier s'est écrit à la Villa Médicis. Alors c'est pas un envoi, mais enfin c'est une œuvre de la Villa Médicis. On a la symphonie Roma de Bizet par exemple, on a les Ariettes oubliées de Debussy ou La Damoiselle élue, le psaume 116 de Schmitt, on a beaucoup de choses. Et je suis assez persuadé que là où on trouverait les meilleurs envois à réentendre aujourd'hui, c'est quand on voit des rapports très mauvais. Par exemple, il y a ce Augustin Savard que je ne connais pas très bien, enfin, que de nom, et dont tous les rapports sont exécrables parce qu'on dit que c'est symphonique, sa musique est tonitruante, qu'elle est wagnérienne, qu'elle est dissonante, qu'elle est beaucoup trop avancée, que c'est de l'hystérie orchestrale. Et moi, franchement, j'ai très envie d'aller entendre les symphonies de Savard parce que je pense qu'aujourd'hui, ça aurait du succès.
Bruxelles Philharmonique sous la direction d'Hervé Niquet. C'était La fin d'Ivanhoé de Camille Saint-Saëns, une œuvre de 1864, non pas envoyée de Rome, puisque Saint-Saëns n'a pas eu le prix de Rome, Alexandre Dradvicky. Il l'a présenté deux fois, en 1852 et 64, et c'est à l'occasion de ce prix de 1864 qu'il a composé donc cette Ivanhoé, c'est cela ?
Ivanhoé non récompensé, donc là ce que vous avez entendu c'était la première édition et la création de l'œuvre en 2010-11. Il faut se dire que tout le répertoire des cantates de concours qui n'étaient pas récompensées, qui n'avaient pas le premier prix, n'était pas joué. Donc ça laisse des inédits en quantité. Là il y a encore des pages entières de Bizet, il n'y a pas si longtemps de Debussy, que personne et les compositeurs eux-mêmes n'avaient jamais entendu. Alors c'est vrai qu'on s'étonne toujours de se dire que des gens comme Chausson, comme Ravel, comme Saint-Saëns, qui sont quand même, ou Lalo, ou Franck, qui sont les gloires de la musique française, n'ont pas obtenu le prix de Rome. Il faut juste se dire qu'à un moment donné, il fallait être le meilleur selon des critères bien précis. Et je dois vous dire, pour vous raconter juste cette anecdote, il y a quelques années au Festival Berlioz, on a, devant un public de 1000 personnes, recréé les trois cantates du concours de 1028, trois Herminie, en blind test, c'est-à-dire on n'a pas dit de qui il s'agissait, et on avait là Pierre-Julien Arjot, Guillaume Ross-Despréaux et Hector Berlioz. Eh bien, en fait, les gens ont voté. Et alors Berlioz est arrivé, parce que les gens connaissaient, ont reconnu un peu sans doute, mais Berlioz est arrivé en tête, mais si on additionnait les deux, les récompenses que le public a données à Arjot et à Ross-Despréaux, en fait les gens quantitativement n'ont pas préféré Berlioz. Mm-hmm. Parce qu'en fait on a estimé que les autres faisaient plus d'effets en situation de concert. Et ça c'est quand même le public qui parle, alors que vaut l'avis du public je ne sais pas, mais quand on est compositeur, l'avis du public on ne veut pas tout à fait s'en fiche à mon avis.
Et Alexandre Dradvicki, est-ce qu'il y aurait donc à faire une histoire donc des refusés du prix de Rome?
Alors oui, et surtout, je pense que, par exemple, dans la musique du concours des refusés, c'est là qu'on aurait sans doute les choses trop avancées, entre guillemets, trop modernes, donc non récompensées, mais qui aujourd'hui, justement, seraient certainement intéressantes en tant qu'objet d'art.
Oui, parce qu'on peut évidemment imaginer, Alexandre Dradvicki, qu'en fonction des années qui passent, du temps qui passe, que les critères esthétiques ont évolué et qu'une œuvre refusée en 1850 aurait pu être acceptée en 1870 ou 80 ou 90.
Alors absolument, et c'est vrai que cette évolution esthétique, elle est intéressante aussi bien dans le cadre des pièces de concours, des cantates que des envois de Rome, parce que tout ça nous écrit un résumé de l'histoire de la musique avec tous les genres et les styles interdits qui deviennent finalement, à travers les règlements, hein, on autorise la symphonie, ensuite on autorise le quatuor à cordes, on autorise la mélodie avec orchestre, alors que c'était refusé. Et donc tout ça montre comment le prix de Rome a été à l'écoute de son temps et n'est pas resté figé comme on le pense entre 1800 et 1900. En fait, les choses se sont clairement ouvertes progressivement et peut-être pas aussi vite que les jeunes pensionnaires fougueux auraient voulu.
Sur ce large 19e siècle que vous avez étudié, Alexandre Dradvicki, est-ce qu'il y a un genre musical qui a eu vraiment la faveur des pensionnaires de la Villa Médicis? Alors, oui, malgré peut-être pour plaire au jury ou pour être dans le dans
alors
les clous.
Oui, il y en a évidemment, c'est l'opéra français, parce qu'en fait pour faire carrière et pour percer dans le milieu, il faut produire un opéra français qui a du succès et qui commercialement s'installe dans le répertoire. Donc tout le monde a fait de l'opéra comique et du grand opéra par plaisir et par nécessité.
Mais dernier point, c'est qu'une fois revenu à Paris, en tout cas en France, ces compositeurs auréolés donc de leur séjour, de leur prix et de leur séjour à la Villa Médicis, ne connaissent pas forcément la gloire.
Et pire que ça, ils espèrent que l'Institut va les soutenir. Or, tout s'arrête du jour au lendemain. Et là, c'est vraiment la course du chacun pour soi. Pour obtenir une tribune à la Madeleine, pour obtenir un poste au conservatoire, ou mieux, un opéra ou un poste de pianiste répétiteur au théâtre italien ou à l'opéra comique. Et en fait, on voit des gens désespérés. Et notamment, il y a une lettre, je crois, je ne sais plus si c'est Ambroise Thomas, mais qui dit de Berlioz que le pauvre Berlioz toque à toutes les portes. Il est complètement désespéré de revenir à Paris et rien ne s'ouvre à lui.
Est-ce que ça veut dire que finalement le prix de Rome ne facilite pas finalement l'entrée dans la vie professionnelle de ces jeunes compositeurs?
Pas de manière naturelle et logique, d'abord parce qu'il y en a trop par rapport aux postes disponibles, et puis alors au XXe siècle on va trouver un subterfuge, l'État va trouver un subterfuge qui consiste à nommer en priorité les prix de Rome directeurs de conservatoire. Donc enfin pas aujourd'hui, mais dans les années 60-70, tous les directeurs des conservatoires de province étaient des prix de Rome et donc des compositeurs.
Très bien, merci beaucoup Alexandre Dradvicki. Je rappelle le titre de votre livre, Bon baiser de Rome, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud de Palazzetto Bruzzane. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Fabien Capel, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Christian Akaoui. Nous évoquerons le pouvoir expressif et imitatif de la musique. Et dans deux semaines, nous parlerons de Marcel Dupré, prix de Rome 1914, qui clôt d'ailleurs, Alexandre Dradvicki, la liste de vos prix de Rome en 1914. D'ici là, très bonne journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.